VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Nous sommes le vendredi 18 août 2023 et il est 18h30 en temps universel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute. Nanit Talani pour vous présenter le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, poursuite de la réunion des chefs d'état-major des armées ouest-africaines au Ghana dans l'optique d'une éventuelle intervention armée au Niger après le putsch. L'ONU se dit préoccupée par des restrictions à l'espace démocratique en RDC à 4 mois de la présidentielle. 75 migrants sénégalais ont été secourus à bord d'une embarcation au Sahara occidental par la marine marocaine. Incendie à Hawaï, ici aux États-Unis. Démission du chef de l'agence de gestion des crises de l'île de Maui, critiqué pour la gestion de l'incendie meurtrier. Et dans environ 10 minutes, vos rendez-vous habituels avec les nouvelles sportives et l'économie, où il sera question du sommet du groupe BRICS, des principales économies émergentes Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, à Pretoria. Mais en attendant, le journal. Les chefs d'état-major des armées ouest-africaines sont réunis pour la seconde journée au Ghana dans l'optique d'une éventuelle intervention armée au Niger après le coup d'État. Par ailleurs, l'Union européenne s'inquiète du sort réservé au président déchu Mohamed Bazoum. Le point avec Alexandrine Holognon.
Rien n'a filtré à la mi-journée des possibles conclusions des responsables militaires des pays de la CEDEAO. S'ils discutent des modalités d'une possible opération armée pour rétablir au pouvoir le président Bazoum, la CEDEAO semble toutefois encore privilégier la voie du dialogue. Les appels à un règlement pacifique de cette crise se sont d'ailleurs multipliés ces derniers jours, en particulier de la part des États-Unis. La réunion doit affiner les détails au cas où la CEDEAO recourait aux moyens ultimes de la force. C'est ce qu'avait expliqué Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. La junte militaire au Niger, pour l'heure, reste inflexible et estime qu'une intervention armée contre leur pays serait une agression illégale et insensée. Et ils retiennent séquestré le président déchu qu'ils comptent poursuivre pour haute trahison.
Le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui préside aussi la CEDEAO, avertit que toute nouvelle détérioration de l'état du président du Niger, Mohamed Bazoum, qui est donc séquestré depuis le coup d'état militaire qu'il a renversé, aurait de sérieuses conséquences. Il a donné cet avertissement lors d'un entretien hier avec le président du Conseil européen, Charles Michel, selon les propos rapportés ce vendredi par une responsable de l'Union européenne. De son côté, Charles Michel a réitéré le soutien et l'appui total de l'Union européenne aux décisions de la CEDEAO, ainsi que la condamnation ferme du coup de force inacceptable au Niger, selon la responsable de l'Union européenne. Cette organisation ne reconnaît pas les autorités issues du putsch. Le président Bazoum, démocratiquement élu, reste le chef de l'État légitime du Niger, a insisté la même source. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU en République démocratique du Congo se dit préoccupé par les violations des droits humains et des libertés fondamentales liées notamment à des restrictions à l'espace démocratique dans le pays. Un constat qui intervient à 4 mois de la présidentielle. Les précisions de John Lindon.
Du 1er janvier au 30 juin 2023, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme a documenté 116 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions à l'espace démocratique sur l'ensemble du territoire congolais, est-il écrit dans ce rapport semestriel publié jeudi. En ce qui concerne l'impact sur le processus électoral, l'ONU affirme avoir documenté au moins 30 incidents liés aux élections qui ont fait au moins 80 victimes, dont 15 victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires et 60 victimes de violations et atteintes au droit à l'intégrité physique. Ces chiffres représente cependant une baisse de près de 40% par rapport à la même période de l'année 2022 et de près de 31% par rapport au semestre précédent. Malgré cette diminution, la gravité des cas documentés, notamment contre les journalistes, défenseurs des droits de l'homme et opposants politiques, reste préoccupant, soutient l'ONU.
La marine marocaine a intercepté 75 migrants sénégalais à bord d'une embarcation au large de Dakhla, au Sahara occidental, a indiqué ce vendredi une source militaire. Leur embarcation de fortune était partie le 12 août des côtes sénégalaises vers les îles Canaries en Espagne, a précisé la source militaire citée par l'agence de presse marocaine MAP. Les migrants, secourus jeudi, ont reçu les premiers soins avant d'être remis à la gendarmerie royale afin d'effectuer les démarches administratives en vigueur, a ajouté la même source. L'Afrique du Sud connaît une baisse du nombre d'homicides, une première depuis 2020. Moins d'homicides ont été commis dans le pays au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier, une première depuis l'apparition du Covid dans le pays il y a plus de 3 ans, d'après les statistiques officielles publiées ce vendredi. Quelques 6 228 cas ont été enregistrés entre avril et juin, soit une baisse de 3,1% selon les chiffres présentés par la police.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le chef de l'agence de gestion des crises de l'île hawaïenne de Maui a démissionné hier après avoir été critiqué pour ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme lors de l'incendie meurtrier qui a ravagé la ville de Lahaina. Jacques Aristide.
Herman Ndaya, l'administrateur de l'agence chargée de la gestion des crises à Maui, invoque des raisons de santé pour justifier son départ qui prend effet immédiatement selon un communiqué publié par le bureau du maire Richard Bissen. Avant de jeter l'éponge, Herman Ndaya avait dit ne pas regretter le non-déclenchement des sirènes d'alarme. Les survivants affirment qu'ils n'ont pas été prévenus qu'un feu se dirigeait vers la cité portuaire de Lahaina et ses 12 000 habitants. La plupart des victimes se sont retrouvées prises au piège dans leur maison ou leur voiture alors qu'elles tentaient désespérément d'échapper aux flammes dévorantes. Le bilan provisoire de ce feu qui a englouti Lahaina, ancienne capitale du royaume d'Hawaï, s'élève à 111 morts. Il s'agit déjà de l'incendie le plus meurtrier depuis plus d'un siècle aux États-Unis et le bilan définitif pourrait être bien plus lourd. La démission de Herman Ndaya intervient quelques jours avant la visite lundi du président démocrate Joe Biden, lui-même critiqué par les républicains pour sa réponse jugée insuffisante.
Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon vont tisser des liens militaires plus étroits, selon une annonce faite ce vendredi lors d'un sommet inédit à Camp David, près de Washington, et destiné à envoyer un signal d'unité à la Chine comme à la Corée du Nord. Cela passera notamment par un programme d'exercice conjoint sur plusieurs années, ainsi qu'un engagement à se consulter dans des situations de crise, a assuré le principal conseiller à la Maison-Blanche, Jack Sullivan, peu avant que ne débute une rencontre entre le président américain Joe Biden, le premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol. En Haïti, les violences des bandes armées qui font régner la terreur ont fait plus de 2400 morts depuis le début de l'année. C'est ce qu'indique l'ONU. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Between the 1st of January and the 15th of August this year.
Entre le 1er janvier et le 15 août de cette année, au moins 2439 personnes ont été tuées et 902 autres blessées. De plus, au moins 951 personnes ont été enlevées.
Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme, s'exprimant lors d'un briefing de l'ONU à Genève. En réponse à la violence persistante des gangs et à l'insécurité généralisée, il y a une augmentation des mouvements de justice populaire ou des groupes d'autodéfense. D'après Mme Shamdasani, depuis le 24 avril jusqu'à la mi-août, plus de 350 personnes ont été lynchées par la population locale et des groupes d'autodéfense. Face à la vague de violence qui s'est encore intensifiée mi-août, Volker Türk, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, demande que des mesures soient prises d'urgence. Le secrétaire général des Nations Unies propose une force multinationale non onusienne pour aider la police haïtienne à faire face à la situation. Haïti est englué depuis des années dans une profonde crise économique, sécuritaire et politique qui a renforcé l'emprise des gangs.
La Russie a annoncé ce vendredi sanctionner le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui avait émis mi-mars un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, ainsi que des ministres et des journalistes britanniques. Le ministère russe des Affaires étrangères justifie ces nouvelles sanctions par le soutien militaire indéfectible de Londres à Kiev et la mise en œuvre agressive d'une politique anti-russe hostile après près d'un an et demi de conflit en Ukraine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco est signée Alexandrine Ollognon.
Le groupe BRICS des principales économies émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, tiendra son 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Johannesburg du 22 au 24 août. Les présidents sud-africains, chinois, brésiliens et le premier ministre indien devraient y participer. Le président russe Vladimir Poutine ne sera pas présent en personne en raison d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés en Ukraine. Le Zimbabwe autorisera les promoteurs de crédit carbone à conserver jusqu'à 70% des recettes pendant les 10 premières années du projet, 30% étant versé sous forme de taxes environnementales. En mai dernier, le gouvernement a déclaré vouloir prendre 50% des recettes des projets carbone en s'opposant à ce qu'il a qualifié de lavage climatique dans une décision qui a surpris les marchés mondiaux. L'Algérie note une croissance du nombre de touristes étrangers à Djanet, oasis du Sahara algérien. Depuis la mise en place en 2021 d'un système de visa obtenu à l'arrivée, plus de 4000 étrangers, selon des chiffres de médias locaux, ont visité le site situé à 2300 km au sud-est d'Alger et ses alentours, dont le Tassili Nadjer, un site féerique classé par l'UNESCO.
Et maintenant, l'actualité sportive avec Yakuba Ouédraogo.
Bonsoir Nanit, bonsoir à tous.
Bonsoir Yakuba. Pour commencer, athlétisme avec la suspension levée pour Toby Amusan.
Oui, la Nigériane, championne du monde et recordwoman du monde du 100 mètres haies, a vu sa suspension provisoire levée par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Toby Amusan avait été suspendu provisoirement en juillet pour 3 manquements à ses obligations de localisation antidopage. En moins d'un an, elle pourra donc prendre part aux mondiaux de l'athlétisme prévus à Budapest en Hongrie du 19 au 27 août. Toby Amusan pourra finalement s'aligner mardi en série du 100 mètres haies, le tribunal disciplinaire ayant considéré que l'athlète n'a pas commis de violation à la réglementation antidopage relative à ses manquements supposés. En 2022, Amusan a conquis le titre de champion du 100 mètres haies après avoir établi un nouveau record du monde de la discipline en 12 secondes 12 en demi-finale.
En football, Yassine Bounou rejoint Al-Hilal.
Le gardien de but marocain du FC Séville s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Hilal où il rejoint notamment le Brésilien Neymar transféré cette semaine du PSG. Le FC Séville et Al-Hilal ont conclu un accord pour le transfert du gardien Bounou, a indiqué le club andalou dans un communiqué, tandis qu'Al-Hilal a diffusé une vidéo sur ex-Tudor dans laquelle le joueur s'exprime en arabe. Le montant de l'opération, qui n'a pas été révélé, est estimé par la presse espagnole à 20 millions d'euros. Yassine Bounou débarque ainsi en Arabie Saoudite après 4 ans à Séville, où il était arrivé de Gérone à l'été 2019, surnommé Bono. Le gardien international demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 a disputé 142 matchs officiels avec Séville, avec lequel il a remporté 2 titres en Ligue Europa en 2020 et 2023. Bounou, 32 ans, rejoint l'attaquant brésilien Neymar, mais aussi le Sénégalais Kalidou Koulibaly.
Terminons, Yakuba, par ces 570 millions de dollars que le Mondial a généré.
C'est ce qu'affirme le président de la FIFA, Gianni Infantino. Je dis à toutes les femmes, et vous savez que j'ai 4 filles, donc j'en ai quelques-unes à la maison, que vous avez le pouvoir de changer, a déclaré le dirigeant suisse à la Convention de football féminin de la FIFA. La FIFA a annoncé en février dernier des revenus records pour le cycle 2019-2022 de quelque 7,6 milliards de dollars en hausse de 18% par rapport à la période précédente. La FIFA a aussi triplé les dotations par rapport à l'édition 2019 en France, portant le prize money à un total historique de 152 millions de dollars, soit 10 fois plus que pour le Mondial 2015 au Canada. La finale opposera dimanche l'Espagne à l'Angleterre, à Sydney, deux sélections qui rêvent d'ajouter leur nom au palmarès.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours avec vous. Maintenant, passons à notre page magazine. MSF exprime de vives inquiétudes concernant la situation humanitaire à Khartoum et dans les camps de réfugiés soudanais à Adré au Tchad. Les mois à venir s'annoncent extrêmement complexes. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Genève en Suisse la responsable de la réponse aux urgences à MSF Genève, Trish Newport.
Alors, nous avons des équipes à Khartoum qui travaillent dans les hôpitaux, qui soutiennent les équipes dans les hôpitaux, mais nous sommes vraiment inquiets. Nous avons des inquiétudes pour la situation, pas seulement à Khartoum et au Soudan, mais aussi dans les pays à côté du Soudan qui répondent aux influx des réfugiés. Alors, nous sommes aussi à Adré, et Adré est sur la frontière avec Tchad et Soudan. Depuis le début du conflit, il y a à peu près 380 000 personnes qui ont traversé la frontière de Soudan vers Tchad. Alors aujourd'hui, MSF travaille dans un hôpital à Adré. Adré, c'est cette ville tchadienne sur la frontière. On a 250 lits pour la pédiatrie. On travaille dans la chirurgie. Nos lits sont pleins avec les enfants malades. On travaille aussi dans un camp dans la ville où il y a 150 000 personnes. On assure l'accès à l'eau aux personnes, on fait les soins de santé primaires, on a les tentes pour les zones d'observation et stabilisation, on a 40 lits, c'est aussi plein. On voit beaucoup de paludisme, on voit beaucoup de malnutrition aiguë sévère, et notre inquiétude et l'urgence est assez grande et il n'y a pas assez d'acteurs sur le terrain pour répondre aux besoins humanitaires qui sont vraiment aigus. Aujourd'hui, il y a plus que 2000 personnes qui traversent la frontière encore. Ils sont plutôt les femmes et des enfants.
Qui vont au Tchad, c'est à Adré.
Oui, qui viennent à Adré, qui viennent au Tchad du Soudan. Alors, les réponses humanitaires, ils ont construit les camps pour ces réfugiés. Mais ce n'est pas suffisant. Les gens d'Adré, ils sont déplacés ou relocalisés vers les camps, mais les camps ne sont pas prêts. Il n'y a pas assez d'abris, il n'y a pas assez de l'eau pour les personnes, il n'y a pas les gens, ils n'ont pas les bidons pour l'eau, ils n'ont pas les choses pour faire cuisiner, il n'y a pas de bouffe. Et on est vraiment inquiétés que s'il n'y a pas une augmentation à l'aide humanitaire vraiment rapide et en une façon urgente, que cette urgence va sûrement grandir. Et c'est la saison de pluie au Tchad maintenant. Et quand il y a la saison de pluie, nous savons que c'est aussi la saison du paludisme. Alors aujourd'hui, on traite beaucoup de paludisme, les adultes, les enfants, mais nous savons qu'avec le paludisme, ça peut aggraver la malnutrition aiguë.
C'était Trish Newport, responsable de la réponse aux urgences à MSF Genève.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La parenté à plaisanterie est une valeur ancestrale au Burkina Faso. C'est une sorte de pacte entre des groupes ethniques qui se taquinent et qui, en principe, ne peuvent jamais entrer en conflit. Elle est considérée comme un levier très important dans la recherche de la paix. Reportage à Bobo-Dioula Sow, d'Alidou et Traogo.
Bobo-Dioula Sow est une ville cosmopolite du Burkina Faso où la parenté à plaisanterie est très forte. Elle consiste à se taquiner entre ethnies ou communautés. La règle est qu'on ne doit pas se fâcher face à ces moqueries et qui ont pour but unique de raffermir les liens entre communautés. Pour parler de cette parenté, nous nous sommes rendus au Centre culturel Jean-Paul II pour la paix et le développement. Là, c'est l'archevêque émérite Anselme Titiama Sanou qui nous reçoit. homme de Dieu et de culture. Il a aussi écrit un livre sur cette parenté à plaisanterie depuis 1967. Il nous explique que c'est né à la suite d'un génocide entre des peuples.
La plaisanterie, c'est une base d'alliance, de traité, de contrat que ses ancêtres ont dit désormais pour ce qui vient de mon sang. Désormais pour ce qui vient de ton sang, on n'ira pas au conflit extrême.
Dans un autre quartier, au secteur 3, nous retrouvons Blaise Sanou, traditionnaliste, gardien de la tradition bobo et médiateur des conflits sociaux. Pour lui, la parenté à plaisanterie peut aider à prévenir un conflit intercommunautaire et religieux pendant ces temps de crise.
Aujourd'hui, ce conflit-là, honnêtement, la parenté à plaisanterie peut gérer ça. Si par exemple les bobo et les peuls s'entendent, si les mochi et les samo n'ont pas de problème, si les gourous et les bissa n'ont pas de problème, le problème est où ? Parce qu'aujourd'hui,
il y a des situations explosives que cette pratique traditionnelle a réglées, nous confie Anselme Titiama Sanou.
Je sais que dans certaines situations, on a eu recours à la tradition pour résoudre des problèmes insolubles.
La parenté à plaisanterie est tellement sacrée que toute transgression doit être immédiatement réparée. Blaise Sanou nous cite l'exemple des bobos et peuls.
Si vraiment tu arrives à porter la main sur un peul en tant que bobo, si tu reconnais après que tu as fauté, qu'est-ce que tu dois faire? Cherche un coq blanc. Tu vas remettre au pôle là en disant ah, je présente mes excuses. Et puis lui, il est obligé de prendre et pardonner.
Dans la société burkinabè, presque tous y ont recours pour gérer des différends sociaux. Illustration dans le grand marché où des milliers de personnes se rencontrent.
La parenté à plaisanterie est capitale. Ça évite beaucoup de palabres entre nous.
Au regard de la situation que vit le Burkina Faso, beaucoup pensent aujourd'hui que le cousinage à plaisanterie, également connu sous le nom d'alliance à plaisanterie, doit être institutionnalisé. Alidou Ouedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les autorités kényanes ont exhumé plus de 400 corps liés à une secte dont le chef est accusé d'avoir demandé à ses adeptes de s'affamer. Cette tragédie a suscité un débat au Kenya sur la manière de protéger à la fois la liberté religieuse et la vie des fidèles. C'est un reportage de Francis Ontomoi à Nairobi, la capitale kényane. Le récit est d'Alexandrine Olonion.
Un événement inédit, des experts, politiciens et universitaires réunis pendant deux jours dans la ville indienne de Kandinagar, avec pour but de discuter des avantages.
Nous étions en train de parler des autorités kényanes qui ont exhumé plus de 400 corps liés à une secte dont le chef est accusé d'avoir demandé à ses adeptes de s'affamer. Cette tragédie a suscité un débat au Kenya sur la manière de protéger à la fois la liberté religieuse et la vie des fidèles. C'est un reportage de Francis Ontomoi à Nairobi. Le récit est d'Alexandrine Holonion.
Dans une salle d'audience, le chef d'un groupe religieux lié à des centaines de morts dans l'est du Kenya. Le pasteur Paul Mackenzie de l'église Good News International Church est accusé d'avoir convaincu ses adeptes de se laisser mourir de faim et d'avoir enterré leurs corps dans des fosses communes près de la ville côtière de Kilifi, au nord de Mombasa. Au moins 400 corps ont été exhumés à ce jour. Ces scènes troublantes ont contraint le gouvernement kenya à se pencher sur le sujet sensible de la réglementation des religions. En juin dernier, le gouvernement a créé un groupe de travail chargé de recueillir l'opinion publique sur la possibilité d'imposer une telle réglementation. Le groupe a 6 mois pour rendre ses conclusions. Certains chefs religieux appellent à la prudence. Peter Nyaga est le pasteur de l'église adventiste du septième jour.
Le gouvernement est chargé, bien sûr, de faire régner l'ordre et d'assurer la sécurité de ses citoyens. Mais je pense que c'est aller trop loin que de vouloir réglementer la liberté de culte.
Cette affaire a toutefois amené de nombreuses personnes à se demander comment des fidèles peuvent être entraînés dans des groupes religieux aussi extrêmes. Cet homme, qui a voulu garder son anonymat, a déclaré à VOA qu'il avait appartenu à une secte, mais qu'il s'en était séparé lorsqu'il s'était rendu compte qu'elle s'engageait sur une voie dangereuse.
Ce qui est étrange, c'est qu'il vous sépare de votre famille, de vos frères, de vos sœurs, de votre père, de votre mère. Votre mère peut essayer d'intervenir, mais ils vous disent non. Le paradis est singulier, le paradis, c'est juste vous.
Il affirme également qu'il y avait d'autres indicateurs.
Le chef de l'église dit qu'il ne peut pas mourir de mort naturelle, donc s'il meurt maintenant, beaucoup de gens se suicideront parce qu'ils croient en lui. Ils croient que l'église ira au paradis et que les autres églises iront en enfer.
Selon les experts, alors que le nombre de cultes augmente au Kenya, le gouvernement doit faire preuve de prudence dans la réglementation de la religion. Benson Mulemi est professeur d'anthropologie à l'université de Pretoria. Il a effectué des recherches sur le nombre croissant de cultes au Kenya.
L'accent devrait être mis sur la réglementation, le contrôle et même la sanction des actes qui se sont avérés contraires aux droits de l'homme, aux libertés humaines fondamentales, car l'appartenance à un groupe religieux est comme la liberté d'expression.
Les exhumations se poursuivent près de Kilifi. Et selon les autorités, le nombre de morts parmi les partisans de Mackenzie ne cesse de s'alourdir. Les Kenyans suivent cette histoire avec horreur et cherchent des réponses pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise.
L'Organisation mondiale de la santé organise à partir d'aujourd'hui en Inde son premier sommet dédié à la médecine traditionnelle pour mettre en avant la nécessité de se reposer sur des preuves scientifiques avant de commencer un quelconque traitement alternatif naturel. Davantage avec Jacques Aristide.
Un événement inédit des experts, politiciens et universitaires réunis pendant deux jours dans la ville indienne de Kandinagar, avec pour but de discuter des avantages et des défis de la médecine traditionnelle. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.
L'une des grandes forces de la médecine traditionnelle est la compréhension des liens étroits entre la santé de l'homme et notre environnement. C'est pourquoi l'OMS s'est engagée à aider les pays à libérer le potentiel de la médecine traditionnelle par l'intermédiaire d'un centre mondial de médecine traditionnelle à Jamnagar.
La vision est claire, harmoniser la médecine traditionnelle avec les normes scientifiques actuelles.
La médecine traditionnelle est aussi ancienne que l'humanité. Tout au long de l'histoire, les peuples de tous les pays et de toutes les cultures ont eu recours aux guérisseurs traditionnels, aux remèdes maison et à la médecine ancienne, aux connaissances médicinales pour répondre à leurs besoins en matière de santé et de bien-être.
La priorité, assurer que la médecine traditionnelle soit efficace, sûre et basée sur des preuves scientifiques solides. Harold Varmus, président du conseil scientifique de l'OMS.
Aujourd'hui, les scientifiques peuvent diverger sur les perspectives de découverte de la prochaine grande avancée des médecines traditionnelles, mais nous devons faire face à un fait réel très important. Les médecines traditionnelles sont très largement utilisées.
Le mode de soins alternatif compte de nombreux adeptes à travers le monde, mais aussi quantité de détracteurs qui lui reprochent un manque de crédit scientifique et de preuves de son efficacité. L'accent est donc mis sur la recherche approfondie des ingrédients et la fiabilité des traitements traditionnels.
Il est important de comprendre quels sont les ingrédients contenus dans les médicaments traditionnels, pourquoi ils fonctionnent dans certains cas et comment nous pouvons améliorer leur utilisation.
Sur les 194 pays membres de l'OMS, 170 ont fait état de leur usage de médecine traditionnelle ou complémentaire depuis 2018. Seuls 124 ont toutefois instauré des lois ou règlements pour encadrer l'usage d'herbes et la moitié d'entre eux ont une politique nationale en la matière. Après ce sommet inaugural en Inde, le rendez-vous est appelé à devenir annuel.
C'est la fin de cette édition. Merci à Michel Joseph qui était à la réalisation et à Adrus Régis qui était à la technique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. À la présentation, Nanit Talani. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24. Un seul site internet, VOA Afrique, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. À très bientôt.